Le tag, base du graffiti.
Même s'il est considéré comme de la dégradation de l'espace public ou privé, et à tout le moins comme de la pollution visuelle, le graffiti semble avoir acquis aujourd'hui quelques lettres de noblesse, du moins dans sa forme figurative. Et les mairies, après avoir lancé leurs policiers et leurs services de nettoyage aux trousses des graffeurs et de leurs œuvres, signent maintenant des contrats avec eux pour créer des festivals de street art et augmenter ainsi l'attractivité de leur ville. Quel changement! Désormais, le graffiti est un incontournable de nos villes, qu'on y soit sensible ou pas. Et il ne transforme pas seulement notre univers visuel quotidien. Il est aussi en train de bouleverser le marché de l'art. Preuve que derrière ces jolies lettres et ces jolies couleurs, il véhicule quelque chose d'invisible qui nous touche. Mais quoi précisément? On le sait, les graffitis sont très anciens, et on en trouve de toutes sortes, sur les arbres, dans les toilettes, sur les murs des prisons. Et on sait que les soldats soviétiques, lors de leur invasion de Berlin en 1945, ont laissé de nombreux graffitis sur les murs du palais du Reichstag qu'ils avaient investi. Les découvertes des grottes préhistoriques d'Altamira en Espagne ou de Lascaux et de Chauvet en France, avec leurs magnifiques représentations animales, ont montré que dessiner sur le mur est une activité très ancienne. Et on voit même dans ces fresques la naissance de l'art. Bref, le graffiti est une vieille habitude de l'être humain. Incorrigible écrivain, il ne peut pas s'empêcher d'écrire sur les murs, de laisser une trace de son passage.
Pompéi, une cité pas si radieuse que cela.
Pour déterminer si le graffiti est de nature religieuse, il faut commencer par s'interroger sur ses racines et sur les éléments auxquels il se réfère. Cela nous donnera sans doute quelques précieux indices. Voyons ainsi le terme français graffiti. Il est issu de l'italien graffito, lequel dérive du latin graphium, éraflure, qui tire lui-même son étymologie du grec graphien, écrire, dessiner ou peindre. On en trouve ainsi de très beaux exemples, parfaitement préservés, dans la cité romaine de Pompéi. Située près de l'actuelle Naples, dans le sud de l'Italie, Pompéi fut ensevelie sous les cendres produites par l'explosion d'un volcan, le Vésuve, en 79 après Jésus-Christ. La plupart des habitants ont péri, mais la ville a été préservée. Elle a sombré dans l'oubli pendant des siècles, puis, au XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle, des fouilles ont été entreprises et on a mis à jour une cité complète, avec ses fresques magnifiques dans les villas, et donc les fameux graffitis. C'était extraordinaire de retrouver une cité romaine presque intacte, de marcher dans les rues, d'entrer dans les échoppes, de visiter les somptueuses demeures, d'aller faire un tour dans les thermes. La ville paraissait comme figée dans le temps, et on pouvait même découvrir certains de ses habitants pétrifiés dans leur dernière attitude. Pompéi donnait l'impression d'une cité prospère et radieuse, où il devait faire bon vivre. Mais récemment, des signes ont laissé penser que la vie n'y était sans doute pas aussi rose que cela. On a en effet remarqué la présence de nombreux chiens, et même leur représentation en mosaïque, avec l'inscription « Cave Canen »,« Prends garde aux chiens ». Et on a découvert que les entrées des villas étaient protégées par plusieurs mécanismes de blocage très sophistiqués pour empêcher leur ouverture. On acquit alors la conviction qu'on ne dormait pas toujours sur ses deux oreilles à Pompéi. Et c'est en analysant les graffitis laissés sur les murs de la ville qu'on s'est aperçu qu'en fait Pompéi vivait au quotidien dans un climat de terreur. Ce climat était entretenu par une multitude de gangs qui sévissaient jour et nuit, attirés par les richesses des habitants. Dans les graffitis de Pompéi, on a certes retrouvé des messages d'amoureux, mais aussi en très grand nombre, des marquages de territoire, des défis lancés aux gangs adverses, des menaces de mort, des rendez-vous pour des règlements de compte. Une des fresques de Pompéi montre qu'au moment des jeux du cirque officiel, se déroulaient hors des arènes des rixes entre gangs. Déjà à cette époque, la guerre de territoire faisait rage. Non vraiment, tout n'était pas rose à Pompéi. Le terme de graffiti ne désigne donc pas seulement le fait d'écrire sur un mur. Il est très clairement associé à la notion de défense d'un business et à des rivalités de gangs. Déjà. Cette origine du terme ne nous oriente pas vraiment vers une dimension religieuse du graffiti. Au contraire, elle l'ancre dans un contexte social bien spécifique de guerre de clans, mais aussi de rébellion contre l'appropriation des richesses par quelques-uns.
Et la signature apparue.
Mais le graffeur moderne ne gratte pas la pierre des murs. Il utilise plutôt une bombe de peinture qu'il emporte toujours avec lui dans son sac à dos et dès qu'il voit une belle surface, il peint sa signature, son tag. Voyons donc si l'ancêtre du tag ne nous fournit pas plus d'indices sur le caractère religieux du graffiti. Il n'y a pas que sur les murs que l'homme a aimé laisser une trace. Dès la naissance de l'écriture, il y a 6000 ans environ, il a inventé des codes pour authentifier des documents. Ainsi est né le concept de signature, qui signifie « ceci est de moi ». Plus tard, dans l'Antiquité et puis au Moyen-Âge, la signature est devenue un sceau, un cachet. On disait aussi un saint, terme qui est resté dans notre vocabulaire moderne sous la forme de l'expression figée « sous saint privé ». Aujourd'hui, quand ils n'ont pas le temps ou l'envie de peindre leur tag sur un mur ou sur un objet du mobilier urbain, les graffeurs posent un sticker, un petit morceau de plastique adhésif avec une sorte de logo imprimé dessus qui caractérise l'artiste. Le sticker est le sceau moderne des graffeurs. Ceci est à moi, ou je suis passé par ici. Le tag ou le sticker sont une manière pour le graffeur de s'approprier l'espace public, de faire sien quelque chose dont, au fond de lui-même, il se sent exclu. Mais ce n'est pas que cela, comme on le verra. Puis, avec le développement de l'écriture dans la population, vient la signature comme on la connaît aujourd'hui. Son prénom suivi de son nom, ou l'inverse. Le tout écrit avec une graphie particulière qui permet d'authentifier son auteur. Le tag est donc une variante murale de cette signature de document. C'est avec lui que va commencer la grande aventure du graffiti. Si les signatures sont une manière artistique et très personnelle d'écrire son nom, au point de rendre parfois le nom illisible, le tag pousse plus loin encore ce concept de nom dessiné. Il y a un art du tag, c'est une esthétique, c'est aussi une gestuelle. Dans une ville du Nord où je passais, un graffeur m'a entraîné dans une friche où, minot, il allait travailler son tag sous la direction du mentor de ses débuts. L'exercice consistait à adapter son tag aux dimensions de l'espace où il allait le poser, en l'occurrence un étroit pilier. Il vous est sûrement arrivé de devoir signer un document dans une case prévue à cet effet. Vous avez alors constaté qu'il est très difficile de bien calibrer sa signature pour qu'elle entre dans le cadre ou qu'elle ne déborde pas dans la bande en bas du chèque. Le tag, lui, ne peut pas dépasser du mur. L'artiste doit donc avoir parfaitement intégré la dimension de son tag pour le faire tenir dans l'espace dont il dispose en largeur comme en hauteur. Et ce n'est pas une mince affaire. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi que les lettres s'équilibrent, que les premières ne soient pas plus grosses que les dernières, ou inversement, qu'il n'y ait pas de vide dans le tracé, bref, que ce soit harmonieux. Et cela s'obtient après de nombreuses répétitions, de nombreux échecs, de nombreuses recherches, et des conseils avisés. Car l'harmonie de la forme et l'adaptation parfaite à l'espace où il se déploie sont au cœur du graffiti, et cela ne s'improvise pas. Ayant ainsi atteint une parfaite maîtrise de son tag, le graffeur se balade dans la ville avec une bombe ou un posca, une sorte de marqueur, à portée de main et dès qu'une surface l'inspire, il dégaine sa bombe et tag, d'un geste sûr, rapide et élégant, pour dire « je suis passé par ici ». Ce geste répétitif n'est pas anodin. Il me fait penser à un autre geste qu'on accomplit ainsi mécaniquement. Je veux parler du signe de la croix qu'effectuent les fidèles en entrant dans une église. C'est le même genre de rituel, accompli de façon mécanique et répétitive, avec une gestuelle rodée de longue date, parfaitement huilée, élégante. En taguant, le graffeur signe et se signe. Il ne se signe pas avec la croix, symbole du Christ, il se signe avec son nom. Enfin, pas tout à fait son nom, car le graffeur ne signe pas de son vrai nom, évidemment. Autant laisser son adresse et son numéro de téléphone à la police pour lui éviter de fastidieuses recherches. Non, le graffeur signe de son pseudonyme, c'est-à-dire, dans la langue du graffiti, de son blase. Le blase est un mot dérivé de blason, ce signe moyenâgeux qui permettait d'identifier son porteur, sa communauté. Il est donc un mot symbole, pas un nom propre. Là encore, il n'y a rien d'improvisé. Le graffeur met très longtemps à se choisir un blase. Parce que la police rôde dans les parages, il ne doit pas être très long à écrire. Faire court pour faire vite, c'est la règle. Le blase, bien sûr, doit être original. Il ne doit pas être porté par un autre graffeur. Enfin, il doit comporter des lettres que le graffeur aime bien dessiner et dont l'enchaînement le réjouit. Car ce blase, il ne va pas seulement en faire un tag, il va aussi l'utiliser comme base pour peindre en très grande dimension les lettres qui le composent et réaliser sur les murs, sur les trains, sur les camions, partout où il le peut, ce qu'en graffiti on appelle un lettrage. Alors, autant que les lettres lui plaisent. Bref, trouver son blaze est très long, sauf si, par une illumination soudaine, il s'impose un beau matin. Le choix est d'autant plus difficile que le graffeur, dans la plupart des cas, n'en changera pas. Et c'est avec lui qu'il signera toutes ses œuvres. Mais le tag n'est pas en lui-même un indice de religiosité. Ce n'est qu'une signature, comme il y en a eu sous différentes formes au cours du temps, pour des usages bien prosaïques, souvent administratifs ou juridiques. Bref, cette signature de graffeur ne nous aide pas beaucoup dans notre enquête. Encore que, la façon particulière de réaliser le tag, comme on se signe en entrant dans une église, me met la puce à l'oreille. Voilà un indice bien intéressant.